Point de Mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Axel Mauger.
J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui le professeur Jean Bastier, un excellent géographe français né à Toulouse. Après une agrégation de géographie, un doctorat ès lettres, après évidemment de nombreux enseignements, il a été nommé professeur à Paris 4 Sorbonne de 1972 à 1988. Depuis cette date, il est notamment professeur émérite de la Sorbonne. Mais ses activités ne se sont pas arrêtées là, bien au contraire, car il est devenu, avec bien d'autres activités, il est devenu président depuis 1995 de la Société de Géographie qui, précisons-le, est une société, la plus vieille société française, qui a été fondée en 1821. J'ajouterai aussi, pour que l'on le sache, il a été nommé président d'honneur de très nombreuses sociétés de géographie dans le monde, de Berlin à Rome, en passant par Saint-Pétersbourg et bien d'autres capitales. Donc, je reçois aujourd'hui une personne qui a beaucoup voyagé, qui s'est beaucoup interrogé sur le développement de notre société, des relations de notre société, de la France, avec beaucoup d'autres pays. Et avant de justement lui demander un peu quelle était son expérience et ce qu'il pense de l'évolution du fait français dans le monde, et notamment dans certains pays, n'oublions pas qu'il a publié, et j'étais très intéressé en lisant son curriculum vitae, notamment son, on le trouve dans le Wuzhou in France, c'est les œuvres du professeur Jean Bastier, qui ont une cohérence tout à fait remarquable. Alors, je nommerai les 3-4 œuvres qui me semblent très importantes. Et alors, notamment ce côté visionnaire, ça m'a beaucoup intéressé. Paris en l'an 2000, oui, c'est très joli de dire Paris en l'an 2000, cher professeur, mais publié en 1964. Donc, vous avez des dons que Orwell aurait apprécié. Nous avons ensuite un autre livre qui s'appelle La croissance de la banlieue parisienne en 1964, sujet extrêmement important pour l'évolution de Paris, on l'imagine. Le général de Gaulle devait être très fier de vous, si j'ose dire. Et nous avons encore, je citerai, et ensuite je vous cède bien sûr la parole, 20 ans de transformation de Paris 1954-1974, donc des travaux, vous voyez, de profondeur remarquable. Nous retrouvons en 1984, donc vous voyez, 20 ans après le premier livre que j'ai cité, Géographie du Grand Paris, ce qui est quand même pas rien. Et j'ajouterai, alors là, ça a été la cerise, si j'ose dire, sur le gâteau, en 2001, ce professeur vraiment est un professeur émérite, Histoire de Paris, 1945 à 2000. Alors, je vous avoue que j'ai été, là, ça va être ma première question, je vous connaissais, nous sommes amis, vous le savez, mais je ne vous connaissais pas sous ce jour-là, parce que je, n'étant pas moi-même géographe, je trouve que vous avez une œuvre d'une cohérence tout à fait remarquable, et j'ajouterai, vous donnant le fait que vous ayez si bien cerné Paris, capitale de la France, capitale mondiale, il faut bien le dire. Est-ce que vous pourriez, en introduction à notre rencontre, nous dire quelques mots sur vos travaux, justement? Est-ce que tout cela vous a apporté par rapport au monde, justement?
Eh bien, j'ai fait à la fois de la géographie et de l'histoire de Paris. Vous avez remarqué que j'ai publié aussi des histoires de Paris, notamment un Paris dans l'entre-deux-guerres, qui m'a appris beaucoup de choses.
C'est vrai, je ne l'ai pas cité.
Et puis, le Paris dans la seconde moitié du XXe siècle. Après m'être intéressé, oui, à travers ma thèse, à l'agglomération parisienne dans son ensemble. Paris est une ville unique au monde. Je me suis attaché à montrer les spécificités de Paris, et notamment en matière urbanistique. Vous avez circulé dans le monde comme moi, vous avez vu des tas de capitales. Il y en a certaines qui ont essayé de copier un peu Paris. Par exemple, Buenos Aires. On dit que Buenos Aires est Paris de l'hémisphère sud.
C'est vrai.
Dans d'autres capitales, comme ne serait-ce qu'à, par exemple, à Lima, un quartier veut copier Paris. Et dans d'autres villes du monde, moins évidemment en Asie, par exemple. Mais dans toutes les grandes villes africaines, et surtout celles évidemment qui ont fait partie de notre ex-empire colonial, on a essayé, tout en cherchant à s'adapter quand même au contexte local, par exemple Lyoté au Maroc.
Vous diriez
enfin,
donc que vous diriez
Paris
donc...
a été un modèle pendant longtemps,
voilà,
un
voilà.
modèle d'urbanisme, surtout à partir des travaux d'Haussmann.
Tout
alors
à fait.
Évidemment, beaucoup d'historiens de Paris sont anti-Haussmann. Ce n'est pas mon cas. Je pense que Haussmann a sauvé Paris, parce qu'il faut essayer d'imaginer ce qu'était Paris avant Haussmann. Et ce qu'il est devenu. Alors quand je dis Haussmann, il ne s'agit pas uniquement d'Haussmann, parce que vous savez que les travaux envisagés par Haussmann se sont poursuivis jusqu'en 1930, au moins.
Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous trouvez d'unique, justement, dans Paris, ou à Paris, par rapport à d'autres capitales ou par rapport à d'autres grandes villes? Qu'est-ce que vous trouvez d'unique?
Eh bien d'abord, par rapport aux villes américaines, il n'y a pas de gratte-ciel dans Paris. Bon, nous avons évidemment la tour Montparnasse, je dirais hélas.
Oui,
la tour Montparnasse,
c'est vrai.
Quelques immeubles de grande hauteur, on les appelle dans le vocabulaire urbanistique, on dit immeuble de grande hauteur, au lieu de dire gratte-ciel.
Immeuble de grande hauteur.
Bon, ce sont ceux qui ont plus de 30 ou 30, 40 étages. Bon, il y en a très peu, ils sont localisés à la périphérie de Paris. Le centre de Paris n'a pas été atteint par le phénomène des gratte-ciel. Comme la plupart des villes américaines.
Sauf un tout petit peu dans le 15e. Sauf un tout petit peu dans le bord de Seine du 15e.
Le long de la Seine.
Le long de la Seine.
Mais c'est pas le centre vivant de Paris.
Tout à fait.
C'est le bord de Seine, oui, dans le 15e. Du côté des Buttes-Chaumont aussi.
Est-ce que vous avez ressenti une fascination des étrangers pour Paris?
Ah oui. Les étrangers sont fascinés par Paris, la plupart, de tous les pays du monde. À l'époque où je circulais beaucoup, notamment en Afrique, le Proche-Orient, bien dans des coins reculés de pays comme le Maroc, l'Irak, l'Iran, les coins les plus reculés, les gens qui ne parlaient aucune langue occidentale, pas le français mais même pas l'anglais, connaissaient deux mots français. Et c'était peut-être les deux seuls mots étrangers qu'il connaissait et qu'il savait prononcer, c'était Paris et De Gaulle.
Ah là là,
Paris
donc
de Gaulle. C'est... Je vous parle des années 1950, 1960. Des gens totalement incultes qui ne savaient ni lire ni écrire leur propre langue maternelle. Et qui ne connaissaient par conséquent aucune langue étrangère. Mais Paris, De Gaulle, pour eux, ça éveillait quelque chose.
C'était quelque chose
quelque chose.
Quels sont les pays... Dans l'ensemble de vos voyages, quels sont les pays où vous avez senti, je dirais, la plus grande admiration pour la France? Si vous deviez faire une sorte de bilan de vos voyages, qu'est-ce qui resterait comme pays vraiment où il y a pour la France une véritable dilection?
Mais d'abord, les pays où l'on parle le français.
Déjà.
Parce qu'ils sont plus à même, évidemment, d'apprécier, d'entendre à la radio,
tout parler
de la France. Les pays où on parle français. Mais beaucoup de pays dans le monde, je vais dire presque tous, les pays d'Amérique latine notamment, bien que leur langue soit l'espagnol, il y a notamment en Argentine, par exemple.
Ah oui, en Argentine.
Dont la population est constituée surtout d'immigrants, vous le savez, à la fois italiens et espagnols.
Encore que j'ai une statistique intéressante à vous donner, c'est qu'un Argentin sur sept a un grand-parent ou un arrière-grand-parent d'origine française.
Ah oui, c'est
pas les deux, mais un.
Oui, mais sur sept.
Sur sept.
Mais la proportion des gens descendants d'Italiens ou d'Espagnols est beaucoup plus forte.
Tout à fait.
Bon, mais l'espagnol est une langue qui est très proche du français aussi. C'est une langue latine, très proche du français, comme l'italien. Bon, mais malgré tout, il y a une véritable vénération pour la France.
Oui, ça,
mais
je crois que c'est...
Au Brésil aussi, bien que le Brésil, la population brésilienne parle rarement le français, sauf les classes cultivées.
Tout à fait.
Bon,
tout à fait.
L'Amérique latine.
Le Mexique.
Le Mexique, bien sûr. Le Canada français, n'en parlons pas, évidemment. La plupart des pays d'Afrique, même l'Afrique de l'Est, qui est anglo-saxonne, de langue. L'Ouganda, par exemple.
Ah oui, l'Ouganda, tout à fait.
L'Ouganda, j'ai fait la connaissance, il n'y a pas très longtemps, d'un Ougandais qui adore le français, qui a appris le français tout seul, qui a créé des écoles privées en Ouganda, parce que l'enseignement est surtout privé là-bas. Il y a des écoles privées en Ouganda où le français est une langue obligatoire.
Ah oui. En Ouganda, langue obligatoire.
Dans certains établissements appartiennent à ce monsieur qui en a créé cette ouine dans la capitale, des lycées, des sortes de lycées pour garçons et filles. Eh bien, ils apprennent l'anglais, c'est évident. Mais il fait apprendre aussi le français parce qu'il est devenu, il s'est passionné pour le français.
Est-ce que je peux vous poser encore, on a loin de là de fini, mais une petite question. Depuis que vous connaissez, depuis que vous êtes membre de la Société de Géographie et aussi bien sûr président, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu, je dirais, un peu un effacement, nous en avons déjà parlé ensemble, une sorte un peu d'effacement du français, et est-ce que vous sentez depuis quelques années une reprise ou pas ?
Alors un effacement, c'est évident. C'est évident.
À partir de quelle année ?
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1950, soit dans les années 50-60 peut-être. Oui. Mais ça avait démarré avant.
Bien entendu.
Ça avait démarré avant.
Bien entendu.
Le français était la langue de la diplomatie, des traités, des accords internationaux, même lorsque la France n'était pas partie prenante directement à ces accords. Et puis, petit à petit, tout cela... C'est diminué, cette utilisation du français est allée en diminuant dans tous les domaines, mais ça c'est pour des causes mondiales, générales, qui
tiennent, financières,
économiques, évidemment, à l'échelle mondiale.
Dans le domaine culturel, nous avons quand même gardé de très bonnes positions.
Oui, mais alors nous sommes en perte de vitesse, il faut le dire, en perte de vitesse depuis 50 ans au moins, nous sommes en perte de vitesse. Et peut-être qu'actuellement, on commence à sentir une espèce de réaction contre cette uniformité qui nous menace à l'échelle mondiale, de devoir tous parler l'anglais, et un anglais, vous savez, réduit à 300 mots. À des formes de phrases tout à fait stéréotypées. Ça permet de communiquer, se débrouiller, mais ça ne permet pas de réfléchir longuement dans une langue dont beaucoup de gens qui croient la parler n'utilisent que 300 ou 500 mots.
Mais vous sentez un peu de réaction depuis quelque temps.
Peut-être.
Vous diriez oui.
Ça tient aussi au fait qu'actuellement, depuis 10 ans, je voyage moins qu'avant.
Je
voyage moins qu'avant, mon âge.
Voilà,
par conséquent, je n'ose pas. Et puis, vous savez, l'universitaire est un homme prudent qui n'aime pas tirer des conclusions hâtives phénomènes qui sont peut-être simplement marginaux ou sporadiques. Voyez-vous, donc, méfions-nous des conclusions hâtives.
Arrêtons la première partie de notre émission sur ces belles paroles du professeur Jean Bastier. Et je signale à mes auditeurs, à nos auditeurs, que vous pourrez retrouver cette première partie de notre émission dans notre médiathèque quand vous le voudrez et la télécharger gratuitement.
Nicolas Poussin et Orphée, la collection privée de Goethe, la gravure de Louis-René Berge, les méditations sur la beauté de François Cheng, les tableaux de Bernard Buffet, de Velikovitch, les œuvres de Pierre-Yves Trémoy, mais aussi Le monstrueux dans l'art, ou Bosch et les tentations de Saint-Antoine, Canal Academy vous propose une série d'émissions sur l'art et de réflexions sur la beauté.
J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui le professeur Jean Bastier, qui est le président, depuis 1995, de la Société de Géographie, qui, je le rappelle, a été fondée à Paris en 1821. Donc, elle ne date pas d'hier, cher professeur. Parler davantage de la Société de Géographie, vous pouvez dire un mot sur le colloque sur l'Islande, qui s'est déroulé de façon tout à fait intéressante et en français.
Oui, absolument. Alors, c'était un petit colloque qui n'a duré qu'une après-midi et qui a eu lieu à notre siège parce que nous avons l'avantage de posséder une salle de 300 places tout près de la station Saint-Germain-des-Prés, à deux pas du Flore. Alors ça, c'est un avantage considérable parce que les gens qui viennent à nos colloques, à nos conférences, à nos différentes manifestations, viennent facilement, très facilement.
C'est un luxe.
Nous sommes entre la station Saint-Germain-des-Prés, la station Mabillon et la station Sèvres-Babylone. Ouais. Trois stations sur trois lignes différentes.
Au 184 boulevard Saint-Germain.
Voilà. Et tout près donc du Flore. Et entouré de trois stations de métro sur trois lignes différentes. Bon, c'est un avantage considérable.
C'est un gros avantage.
Et par conséquent, nos manifestations attirent toujours du monde. À commencer par nos membres, évidemment, qui sont un millier, mais pas tous parisiens.
Quand vous êtes devenu président en 1995, il y avait combien de membres,
Mais j'en avais 420. 420.
Vous avez doublé la mise en 10 ans.
Oui, mais il fallait 10 ans parce que tous les ans, nous avons hélas des pertes.
Ah, hein, bien sûr, des gens qui s'en vont.
Des décès, des démissions pour les gens qui se sentent trop âgés, qui ne peuvent plus se déplacer, qui ne peuvent plus lire même quelquefois.
Oui, tout à fait.
Et puis des démissions, donc des décès, des gens que l'on perd de vue, qui ne se manifestent pas, etc. Donc tous les ans, nous avons quelques pertes.
Oui, mais enfin.
Il faut déjà rattraper les pertes et puis avoir beaucoup plus d'adhérents dans l'année que de pertes pour pouvoir progresser.
Oui, bien sûr.
C'est évident. C'est les mathématiques.
Mais alors, revenons
tout à
ce congrès d'Islande.
Alors, c'était un petit colloque qui a duré une après-midi. C'était sur l'identité de l'Islande, l'identité de sa langue aussi. La langue
Et tout islandaise. Le monde parlait en français.
Ah, tout s'est fait en français, évidemment. Nous avions là, sur l'estrade, et qui ont pris la parole, nous avions là, donc, 7 Islandais.
Cinq ou sept
Islandais.
Donc, je crois une ancienne présidente.
L'ancienne présidente de la République, Madame Vigdís Finnbogadottir.
Qui parle bien le français.
Qui était professeure de français en Islande.
Ah, oui, c'est vrai.
Qui a été 16 ans présidente de la République d'Islande, qui est depuis l'an 2000 membre d'honneur de notre société de géographie, parce que nous avons des étrangers que nous faisons membres d'honneur de notre société dans une limite qui ne peut pas dépasser 8%, 8 à 10% de nos membres.
Ah oui, d'accord.
Nous en avons environ 80 actuellement.
Mais est-ce que le français...
Appartenant à 40 nationalités différentes. Donc une Finlandaise, la dame dont je viens de vous parler. L'ambassadeur de Finlande à Paris qui parle très bien le français. Nous avions le président de l'association des poètes islandais. Le président de l'association des écrivains islandais. Et le président des associations théâtrales islandaises.
Mais comment tous expliquez-vous
parlant français.
Oui, comment expliquez-vous qu'ils parlent tous le français?
Eh bien, parce que j'ai appris à l'occasion, vous savez, on apprend tous les jours.
Oui, tout à fait.
J'ai appris à cette occasion qu'en Islande, dans l'enseignement du second degré, il y avait, outre l'islandais, c'est évident, 5 langues obligatoires. Et que le français faisait partie de ces 5 langues.
Ah, voilà, 5 langues obligatoires.
Obligatoires, avec le latin. Donc, ils apprennent...
5 langues.
Langues obligatoires, outre leur langue. Donc, ils apprennent le danois, vous savez, l'islandais a beaucoup de similitudes, mais enfin, c'est quand même une langue un peu différente, avec beaucoup de points communs avec le danois. Danois, norvégien, enfin, vous voyez, les langues scandinaves, elles ont beaucoup de points communs, avec quand même des différences. Ensuite, ils apprennent l'anglais, évidemment, l'allemand, le français et le latin. Tout ça est obligatoire.
Donc, sont peut-être les plus polyglottes dans le monde, finalement.
Je crois que c'est un des pays les plus polyglottes. Ils ne sont que 300 000, vous savez bien.
Ah oui, donc ils ont besoin de ce pays.
Voilà, ils ne sont que 300 000. C'est un peuple très cultivé qui. La langue islandaise a plus de 1000 ans, hein. Vers l'an 1000, pratiquement tous les Islandais savaient lire et écrire.
Vous voyez, ça, c'est quelque chose que nous ne savons pas en France, que les Islandais parlent le français.
Pas tous, mais beaucoup l'ont appris. Et toutes les classes cultivées parlent le français. Mais ils ne parlent pas que le français, je vous dis, ils ont appris. Ils ont eu 5 langues obligatoires pendant toute la scolarité.
Oui, mais enfin, c'est remarquable.
Du secondaire.
C'est remarquable. Oui. Alors que souvent on dit la Pologne, par exemple, les Polonais parlent de nombreuses langues. Or aujourd'hui, les Polonais ne parlent plus beaucoup le français dans l'ensemble.
Polonais parlent l'anglais, un des pays où le français a le plus reculé, davantage qu'en Roumanie. D'après ce que je peux voir, les voyant les uns et les autres, le français a moins reculé en Roumanie qu'en Pologne.
Oui, oui. Vous me direz, en Roumanie, il y a eu des relations encore plus fortes, je pense.
En Pologne, elles étaient fortes aussi.
Ce colloque a été vraiment très, très nourricier.
Il n'y a qu'un Français qui a parlé, c'est le professeur Claude Agege,
remarquable.
Qui a fait un exposé remarquable sur la diversité des langues dans le monde. Une heure, il a dressé un panorama de toutes les langues mondiales et de leur évolution depuis des siècles. Vous voyez,
formidable.
Bon, il faut avoir une hauteur de vue pour traiter ce sujet, vous voyez. Hein. Il est vrai qu'il parle, paraît-il, 40 langues.
À ce point,
oui,
40 langues, ça me paraît beaucoup, mais c'est formidable.
Mais il y a des analogies. Il y a des points communs entre certaines langues.
Il est plutôt optimiste pour l'avenir du français, etc.
Il est optimiste parce qu'il prétend que l'anglais se créolise. C'est-à-dire que certes, il y a de plus en plus de gens qui parlent l'anglais, mais des anglais différents.
Ah oui, dans les colloques, vous apercevez qu'on ne comprend pas très bien parfois ce que disent les conférenciers en anglais.
Des anglais différents, mais ce n'est pas tellement à ce niveau, disons, des intellectuels, des savants, qui, même s'ils parlent des anglais un peu différents, étant donné leur pays d'origine, ils se comprennent entre eux, ce n'est pas un problème. C'est l'homme de la rue, si vous voulez. L'homme de la rue, si vous prenez un homme de la rue, un Birman parlant anglais, et si vous le mettez face à un Chilien parlant anglais ou un je ne sais pas qui, vous voyez, Africain parlant anglais, il n'est pas évident qu'ils arrivent à se comprendre beaucoup.
Mais professeur Jean Bastier, même dans des colloques, on a parfois du mal à comprendre l'accent.
En fait, toutes les langues qui ont une diffusion large dans le monde se créolisent, plus ou moins. Le français s'est créolisé aux Antilles, à Haïti, partout. Le français que l'on parle, c'est le Canada, le français, etc. Le français se créolise. Mais actuellement, ce mal atteint surtout l'anglais dans le monde, parce qu'il s'est trop répandu chez les peuples les plus divers.
C'est excessif.
Alors vous voyez, il y a toujours le revers de la médaille, si vous voulez.
Dans le cadre de la Société de Géographie, vous faites quelque chose qui est tout à fait remarquable, entre autres, outre des livres, vous invitez pour des déjeuners des ambassadeurs du monde entier. Récemment, par exemple, il y a eu la Tunisie, ils ont parlé, la conférence sur Carthage était dans un français magnifique.
Oui, mais alors que les Tunisiens parlent français, si vous voulez, c'est pas étonnant. Mais par exemple, la prochaine fois, nous faisons venir les représentants de l'ambassade d'Ouganda.
Alors,
le numéro 1 de l'ambassade, qui est une dame, ne parle pas très bien le français. Mais le numéro 2 parle très bien le français. Nous allons faire parler des Ougandais en français à Paris. Ce qui n'est pas très fréquent.
Non, c'est même rare. Bon. Et quel est le programme de l'année prochaine, les 2-3 personnalités que vous allez inviter en janvier, février, mars?
Nous pensons, elle ne nous a pas encore répondu, mais je l'ai rencontrée, elle nous a promis l'ambassadrice d'Australie.
Qui parle le français.
Ah oui, très bien. L'ambassadeur de Singapour qui parle le français. Écoutez, pour un pays, ça me paraît totalement indispensable d'avoir à Paris un ambassadeur qui parle la langue du pays où il se trouve. Si j'étais chef d'État, je n'aurais pas l'idée d'envoyer dans un pays un ambassadeur qui ne parle pas la langue du pays.
Ça serait saugrenu.
Quand même, les chefs d'État, quand même, ce sont des gens, quand même, qui me paraissent, en principe, être rationnel.
Et cette année qui est en train de s'écouler, vous avez reçu un certain nombre d'ambassadeurs dans le cadre de ces déjeuners. Et quels étaient les pays invités, si vous voulez, lors de ces déjeuners?
Nous avons invité une fois l'ambassadeur d'Afghanistan à Paris, qui parle français puisqu'il a vécu toute la période soviétique post-soviétique à Paris, France. Donc il a remplacé un ambassadeur que j'avais bien connu, Mohamed Akram, qui est décédé il y a 15 ans environ, qui était un Afghan, évidemment, et qui avait fait ses études en France, en français.
Donc, vous voyez, c'est...
Et moi, je l'avais rencontré en 1938. Dans la même université, nous étions côte à côte. Je ne savais pas qu'il allait devenir ambassadeur à Paris 40 ans après. Mohamed Akram, c'était un géographe, je n'ai pas besoin de vous le dire.
Mohamed Akram,
qui est mort à Paris il y a 15 ans maintenant. Il avait été ambassadeur, il avait été ministre. Mais tout cela, c'était avant que l'Afghanistan ne connaisse l'histoire mouvementée et cruelle qu'il a connue ces 30 dernières années.
Professeur Bastier, en tant que président de la Société de Géographie, est-ce que vous avez l'impression que cette discipline, la géographie, s'épanouit bien en France, évolue dans le bon sens ou stagne? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, le bon sens est une expression à proscrire. Qu'est-ce que voudrait dire évoluer dans le bon sens, hein? Bon, là, je suis incapable de répondre. Mais, si vous voulez, il faut savoir que la géographie, comme les mathématiques, est une discipline dans laquelle nous avons occupé une place considérable.
La France.
À partir de 1870. Certes, il y a eu de grands géographes allemands, britanniques, etc., au cours du XIXe siècle.
Oui, c'est vrai.
Évidemment.
C'est vrai.
Bon. Il y en a un, entre parenthèses, un Bolt, qui était à moitié français, puisque sa mère était française.
Tout à fait.
Hein, et qu'il parlait admirablement. Il écrivait. D'ailleurs, la moitié de ses ouvrages, un Bolt les a écrits en français.
Ah oui, ce qu'on ne sait pas toujours.
Mais oui.
Enfin, pour ceux qui ne sont pas des...
Il était moitié prussien, mais moitié français, ouais. Puisque sa famille venait des Cévennes, c'était les protestants qui avaient été chassés. Ouais. C'était, si je puis dire, une des retombées heureuses, il y en a eu peu, de la révocation de l'édit de Nantes. C'est qu'en Prusse, vous savez que Berlin, à cette époque-là, aussitôt après, le tiers de sa population était d'origine française.
Ah oui, population
qui était origine Berlin, mais Berlin n'avait que 10 000 habitants à l'époque, ou 15 000.
Oui. Mais enfin, c'était un noyau français considérable.
Et un Bolt descend de ces immigrés français qui ont été provoqués par la révocation de l'édit de Nantes.
Oui, tout à fait. Et
vous, dont il parlait, alors, c'était le grand géographe du 19e siècle, le hasard a voulu qu'il soit moitié prussien, moitié français. D'ailleurs, il a été président de notre société,
qui se voulait internationale.
Et en 1842, je crois, il a été le président de la Société de Géographie de Paris.
Mais vous disiez que la France a tenu une place considérable.
Alors, ensuite, avec Vidal de la Blache, qui a fondé l'École géographique française moderne, entre 1870 et 1914, la géographie française, je n'exagère pas, je pense, était la première du monde.
Tout à fait.
Une des preuves, c'est qu'on a créé, donc, vers 1870, elle s'est fondée à Anvers, mais la deuxième fois, la réunion s'est tenue à Paris.
Ah oui, d'accord.
L'Union géographique internationale.
Et aujourd'hui, quelle est notre position ?
Ah, mais nous avons reculé, évidemment.
Oui, mais enfin, on a une place. Quelle est notre place ?
On est négligeable, mais qui est en partie un héritage.
Ah oui.
Un héritage. Alors, notre société de géographie, celle que j'ai l'honneur de présider, est la plus ancienne du monde, vous l'avez dit tout à l'heure.
Tout à fait.
En 1821. Londres, Berlin, Saint-Pétersbourg, toutes celles-là se sont créées après.
Ouais.
Peu après. Londres, c'est 1829.
Ouais.
Vous voyez
ouais.
Bon, elles se sont créées après la nôtre. Ce qui fait que nous sommes la doyenne du monde. Ce qui fait que dans les réunions internationales, nous passons toujours les premiers.
Ah, donc c'est très bien
bon.
Ça.
Nous passons toujours les premiers. Et chaque fois qu'il y a un anniversaire, centième, 150e, nous allons bientôt fêter le 200e anniversaire de notre société, les sociétés de géographie se réunissent, sont invitées par celles qui fêtent son anniversaire. Moi, j'ai assisté au 150e anniversaire en 1971 à Paris, et nous avions des représentants de toutes les sociétés du monde. Il y en a environ une centaine dans le monde. Une centaine. Chaque pays a la sienne, mais il y a des pays qui en ont plusieurs. Ça, je peux vous expliquer pourquoi. Bon, et j'ai organisé le 150e anniversaire en 1996.
Ouais,
je venais être élu président. Mais j'avais beaucoup participé à celui de 71, le 150e. Il vient des gens de tous les pays du monde. Et presque tous les ans, il y a une société ou une autre qui fête son 100e, 125e, 150e anniversaire.
Oui, donc il y a tout...
Mais lorsque les sociétés étrangères prennent la parole, c'est toujours les Français qui passent les premiers.
Ah oui, c'est comme...
Ou qui font...
Tout seigneur, tout honneur.
Voilà. Et s'il n'y en a qu'un qui parle, c'est nous.
Ah oui, d'accord.
Si on ne peut pas faire parler 150 personnes ou 100, c'est nous qui parlons.
Donc notre position est loin d'être mauvaise.
Oui, mais c'est un héritage.
C'est un héritage, bien entendu. Est-ce que vous vouliez dire par là que nous manquons un peu de dynamisme ?
Non, c'est pas ça. Non. Nous sommes tributaires, oui, de l'évolution mondiale générale qui fait que l'anglais pénètre partout, dans tous les pays, se développe, se répand, et que ce n'est pas la même chose pour le français.
Est-ce que vous considérez que l'anglais est trop agressif, finalement ?
Non, ils ne sont pas agressifs. Mais, disons, quand je dis anglais, ça veut dire américain.
Oui, bien sûr.
Américain
bien
et anglais. Plutôt les Américains.
Plutôt les Américains, oui.
Ils sont un peu envahissants.
Envahissants, oui, d'accord. Pas agressifs, mais envahissants.
Et conscients de leur, très conscients de leur supériorité économique, financière, à tout point de vue.
Voilà, je vois que notre émission arrive à la fin, bien entendu. Nous vous recevrons, quand vous le souhaiterez, bien entendu, professeur Jean Bastier, qui est président de la Société géographique, nous avons eu l'honneur de recevoir aujourd'hui. Et je précise, pour nos nombreux auditeurs, que si vous souhaitez vous inscrire à la Société de géographie, qui est absolument unique en France comme association pour les conférences qui sont offertes, pour les films que l'on peut voir pour la chaleur humaine qui vraiment vous retrouverez dans cette société où il y a énormément de savants, n'hésitez pas à vous inscrire à la Société de Géographie. Je précise l'adresse qui est au 184 boulevard Saint-Germain, Paris 6e. Hein, je crois ne pas me tromper en disant ça. Donc faites-le, n'hésitez pas, c'est une aventure fantastique que de venir découvrir mois après mois les explorateurs, les conférenciers, les savants et les géographes. Nous vous remercions infiniment, professeur Jean Bastier, donc à bientôt, et je tiens à préciser que cette émission, vous la retrouvez facilement dans notre médiathèque, de façon gracieuse, bien entendu. Merci, au revoir. Thank you.